Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une quatrième émission sur l'anthropologie chrétienne, découvrir qui l'on est pour savoir où l'on va et ce pourquoi l'on est fait. C'est le désir qui habite le cœur de chacun et l'anthropologie chrétienne prend en compte la dimension transcendantale de tout homme ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine créée à l'image de Dieu. Nous avons compris le mois dernier ce qui fait la spécificité de chacun, homme et femme. Nous regardons aujourd'hui quelle est précisément la vocation de la femme. Et j'ai la joie de retrouver Camille de Certaines. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, diplômée de l'EM Lyon. Vous terminez actuellement un master en théologie du corps, en plus d'études de philosophie. Et avec votre mari, vous accompagnez des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching à destination des lycéennes intitulé « Mademoiselle Potentielle ». Dans ce qui fait la spécificité de la femme et celle de l'homme, vous nous avez expliqué, Camille de Certaines, cette spécificité dans ce qu'ils sont, dans leur mode de relation, dans leur mode d'oblation. Nous allons aujourd'hui approfondir ce qu'on nomme la vocation de la femme. De quoi parle-t-on exactement ?
La vocation de la femme, c'est sa mission, la mission spécifique de la femme, qui n'est donc pas la mission spécifique de l'homme. Chacun a vraiment une mission unique. Stacy Eldredge écrivait dans Cœur de femme « L'humanité ressemble à un roi ou une reine en exil. Elle ne peut être heureuse tant qu'elle n'a pas récupéré son statut véritable. » Donc c'est important voilà, de creuser quelle est la vocation, la mission spécifique de la femme.
Et donc Stacy Eldredge, en fait, elle dit que la vocation, c'est le statut véritable.
Oui.
C'est comme ça qu'elle l'explique. Pourquoi est-ce important de bien comprendre cette vocation spécifique de la femme ?
Parce qu'en fait, la société peut présenter parfois un modèle masculin de fonctionner, d'agir, de réussir. Et sans que nous nous en rendions compte parfois, en fait, les femmes, pour correspondre aux critères de la société, eh bien, parfois, elles peuvent être poussées à être des hommes comme les autres, finalement. Et donc là, on va tendre à gommer la spécificité de la femme. Si on prend l'exemple du monde du travail, souvent, la maternité est vue comme un frein à la carrière de la femme et pas comme un enrichissement personnel, pas comme une chance. Parce que c'est sûr que si on considère son salarié uniquement du point de vue de l'efficacité, eh bien la femme qui a un enfant va devoir s'absenter quelques mois. Voilà, mais on ne prend pas toute la richesse de la personne.
Toute sa dimension.
Oui, exactement. Donc il y a vraiment quelque chose à redécouvrir pour nous accueillir comme femmes.
Alors c'est vrai que vous avez dit que parfois les femmes étaient pas inspirées, mais peut-être modelées ou entraînées dans cette révolution féministe. Est-ce que finalement, cette révolution, elle n'a pas clarifié la condition de la femme dans la société ?
En fait, oui, il y avait vraiment des choses à changer dans la condition de la femme telle qu'elle était mise en avant finalement depuis le code Napoléon, depuis la révolution industrielle et le modèle qu'on qualifie un peu de petit bourgeois qui pouvait être un peu étouffant pour les femmes. Et la femme emblématique qui s'est révoltée contre ça, c'est Simone de Beauvoir dans son livre « Le deuxième sexe ». En fait, elle pousse vraiment le cri de ces femmes qui se sentaient aliénées, cloisonnées à la maison, dans leur foyer, voilà. Mais elle est allée un peu loin, on va dire, et donc ça allait trop loin dans un sens. Et avec Simone de Beauvoir, il y a eu comme un retour de balancier un peu extrême dans l'autre sens aussi, où du coup, le mouvement féministe apprenait l'émancipation de la femme. Et alors, qu'est-ce qu'elle entendait par émancipation ? Elle entendait suppression des entraves à la formation, des entraves à l'activité professionnelle, l'accès à toutes les branches professionnelles, et y compris masculines. Donc voilà, il y avait quelque chose de légitime, mais il y avait quelque chose qui était un peu biaisé, et c'est Edith Stein qui le note très bien dans ses cahiers sur la femme. Elle écrit « Il fallait libérer les capacités et les forces personnelles de la femme qui, sans ses possibilités d'action, en étaient réduites à s'étioler. » Mais c'était dans un but individualiste. Voilà. Et là, en fait, on a le cœur de l'enjeu, c'est qu'on n'est plus dans un don de soi, on est dans un pour soi, l'individualisme.
Ah oui, c'est ça. Et ce qui ne correspond pas à la vocation de la femme, comme vous nous l'aviez aussi expliqué la dernière fois sur la femme faite pour donner, pour s'offrir. Vous citez, Camille de Certaines, vous citez Edith Stein. Que veut-elle exprimer à travers ces mots ?
Edith Stein, elle peut témoigner de ça parce qu'elle a été la première femme à réussir brillamment une thèse de philosophie à l'université en Allemagne. Elle ne pouvait pas avoir de chaire d'enseigner, elle était assistante du philosophe Husserl. Voilà, donc elle a connu ces freins à la...
Parce qu'elle était femme, elle pouvait
parce
pas
qu'elle
avoir
était
de
femme.
Chair.
Oui, exactement. Exactement. Voilà, donc il y avait vraiment des freins à l'activité professionnelle des femmes. Mais en réaction, en fait, les femmes se sont durcies. Elles ont voulu comme prouver aux hommes, en fait, qu'elles pouvaient travailler comme des hommes, mais finalement, en allant jusqu'à dénier totalement la spécificité féminine. Voilà, on avait vraiment un système qui était allé trop loin dans un sens en réduisant la femme, et puis comme un retour voilà, de balancier qui est allé trop loin dans l'autre sens, en voulant prouver aux hommes que les femmes étaient comme eux, mais en allant quasiment jusqu'à perdre le sens de la féminité et de la maternité. Et en fait, on est un peu toutes influencées, même inconsciemment, hein, vraiment par ce féminisme radical des 70-80 dernières années, et notamment sur la question de la maternité, par exemple. On voit, il y a de nombreuses jeunes femmes qui ont peur de la maternité, qui ont peur de se perdre, en fait, de se perdre en tant que femme en devenant mère. Et souvent, on voit cette opposition, ou alors tu es une femme épanouie, sous-entendu épanouie, ou alors tu es mère. Mais en fait, on a du mal à concevoir que en étant mère, on est aussi de plus en plus femme.
Oui. Et puis, il y a aussi cette crainte de perdre son emploi oui. ou de perdre sa place, ses oui. responsabilités en donnant naissance à un nouvel être.
Et exactement. Parfois, ouais. c'est le cas.
Ouais. Et parfois, c'est le cas, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce qu'Edith Stein veut dire par valeur spécifique de la femme ?
L'objectif d'Edith Stein, c'est vraiment de creuser ce qui fait la spécificité féminine. Et donc, c'est voilà, ce qu'elle appelle la valeur spécifique, c'est-à-dire la vocation de la femme. Et qu'est-ce qu'elle entend par vocation de la femme ? En fait, elle explique que le Créateur a déposé en germe un peu cette féminité, ce mystère féminin que la femme reçoit. Et en fait, plus elle le reçoit, plus ça va irriguer son être, plus ça va rejaillir à l'extérieur d'elle par son attitude, par sa manière d'être, par sa façon de se donner. Mmh. Voilà, c'est vraiment un germe qu'il faut laisser grandir en soi et laisser s'épanouir. Pour soi et pour le monde, pour les autres.
Oui, bien sûr, pour porter du fruit, vous parlez de germe, donc c'est vraiment ça. Oui. À ce stade de l'émission, il est peut-être important quand même de préciser ce qu'est la vocation. Comment vous la définiriez, Camille de Certaine ?
Oui, on peut avoir tendance à idéaliser la vocation. On se dit, alors voilà, c'est vraiment c'est un idéal, c'est éloigné de nous. On imagine une vie ascétique, quelque chose d'assez volontariste.
Assez radical d'ailleurs
oui,
aussi.
Oui,
hein.
Ouais. Ouais. Mais du coup, ça, on se dit, bon, bah, c'est une réussite qui est un peu hors de portée. Voilà, c'est pas ça la vocation. Enfin, il me semble que c'est pas ça, que c'est plutôt une source qui est déposée en nous par le Créateur qu'il faut laisser jaillir. Voilà, il n'y a pas de copier-coller, chacun est vraiment unique et irremplaçable. Maître Eckhart, qui était un dominicain, un théologien mystique, du XIIIe siècle, écrit « Chacun de nous peut devenir la révélation unique et irremplaçable d'un trait encore inconnu du visage de Dieu. » Voilà, et donc en fait, laisser s'épanouir sa vocation, eh bien, c'est permettre à Dieu de se révéler. Donc, il y a vraiment un enjeu pour la personne humaine, pour la femme, et un enjeu pour Dieu, vis-à-vis de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Parce que chaque personne, si elle accepte de laisser vivre et grandir en elle ce qu'elle porte, eh bien, elle peut devenir une chance pour Dieu de se révéler davantage.
Alors justement, vous dites qu'il y a une chance, on va dire une révélation humaine, et puis il y a cette révélation divine. Vous dites que c'est une chance pour Dieu. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça.
Oui, alors c'est un peu, quand je dis c'est une chance, ouais. Un enjeu pour Dieu, c'est un peu abusif, parce qu'évidemment, Dieu est, donc il n'a pas besoin de nous, il n'a pas d'enjeu, voilà, c'est un terme. On réduit toujours en ouais. parlant de Dieu. Mais avec nos petits mots, ce qu'on peut dire... C'est très beau, en fait. C'est que Dieu veut se révéler à travers l'homme et la femme, veut avoir besoin de l'homme et la femme pour se révéler à travers notre visage. Et donc, si je suis dans ma vocation, eh bien, je vais laisser apparaître la gloire de Dieu. Et voilà, c'est Saint Paul qui écrivait « Devenir une louange à la gloire de Dieu ». Ou alors cette phrase de Saint Jean-Baptiste « Qu'il grandisse et que je diminue ». Donc voilà, être dans sa vocation, eh bien, c'est on peut dire une chance pour Dieu, en tout cas.
Oui, c'est ça. Et puis en fait, plus on est dans sa vocation propre, homme oui. ou femme, plus on rend gloire à Dieu.
Oui,
ouais, c'est ça. Pour ouais. ce qui nous a créés, en fait. Oui. Ce pour quoi il nous a créés. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise le mieux la féminité ?
Il me semble que le mot qui caractérise le mieux la féminité, c'est l'accueil. Il y a vraiment un mouvement de recevoir la vocation de la femme, de nous accueillir comme femme, de recevoir notre féminité. Et l'accueil, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose l'ouverture du cœur et ça suppose l'humilité. L'humilité pour recevoir et pour ne pas contrôler, pour ne pas faire selon ce que je veux. Et en fait, être plutôt dans l'émerveillement de ce qui m'est offert, de ce que je découvre du plan de deux sur la femme, sur moi personnellement en tant que femme unique. Voilà, vraiment recevoir ce que Dieu veut pour nous, en fait.
Oui, mais ça oblige, en tout cas, ça invite plutôt à se mettre vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous, pour chacune des femmes. Ouais. Quel est le mode spécifique de la femme ?
Alors, on avait dit dans l'émission précédente que les hommes et les femmes sont appelés au même bonheur, à la même joie, à la même vie pleine et entière, mais on avait souligné que c'était des réalisations complémentaires. En fait, chez la femme, il y a deux modes, on pourrait dire, le mode complétif et le mode réalisatif. Voilà, on l'a vu, la femme est faite donc pour accueillir et elle accueille, elle se donne en accueillant, en aimant. On avait parlé de la création de la femme la dernière fois aussi. La femme femelle dans la Bible, c'est Nekba et ça signifie vase réceptacle. Voilà, Nekba, c'est vraiment la sexuation en femelle. Et donc, le corps de la femme, eh bien, ça nous dit quelque chose de son être, de sa vocation. Si on rappelle le don, qu'est-ce que c'est qu'un don ? Un don, c'est une dynamique. Donc, c'est une dynamique qui part d'un émetteur A, d'un donateur, vers un récepteur B, vers un donataire. Donc, il y a bien deux composantes dans le don. Il y a l'émetteur et le récepteur.
Et c'est vrai que souvent, on pense le don juste seulement du point de vue du donateur.
Oui, c'est vrai. C'est souvent ça, quand on pense le don, on ne pense pas au récepteur, en fait, on pense au donateur. Sauf qu'un don, pour être don, il doit être donné et reçu. Et si un don n'est pas reçu, eh bien, il n'est pas don. Et souvent, voilà, l'homme est plutôt du côté du donateur, il est plutôt dans l'initiative du don, et la femme est plutôt du côté du récepteur, elle est plutôt dans l'accueil de ce don. Et en fait, c'est en accueillant le don de l'homme qu'elle se donne et qu'elle permet à l'autre de se donner aussi. En fait, si la femme refuse d'accueillir, eh bien, l'homme ne peut pas se donner. Et voilà, c'est un peu ce qu'on voit dans la crise de la masculinité. Enfin, on peut le voir dans la crise de la masculinité aujourd'hui. Et on peut prendre plein d'exemples même de la vie quotidienne très simples. Refuser que, quand on est marié, refuser que notre mari nous rende des services, nous propose spontanément de porter un sac de course qui est lourd ou même toutes les petites attentions galantes que les hommes pouvaient avoir. Et ben, bon, c'est des toutes petites choses, mais en fait, si c'est refusé, le message qui peut être reçu par l'homme, c'est « j'ai pas besoin de toi, je suis aussi forte que toi ». Or, oui, il y a égalité de dignité, mais il n'y a pas identité d'aptitude. Et on a chacun nos propres aptitudes. Alors, évidemment, la femme, elle peut être aussi source de dons, elle peut initier des projets, elle peut organiser des choses, voilà.
Et l'homme peut changer une ampoule.
Oui, elle peut porter un sac de course qui est lourd, voilà, évidemment. Et l'homme, il est aussi capable de recevoir un don. Mais en fait, plus naturellement, la femme, elle est dans l'accueil, physiologiquement, psychologiquement. Voilà, on le voit dans l'instinct maternel, en fait. C'est très physiologique et hormonal chez la femme. Tout son être est fait pour accueillir l'enfant.
Donc, vous nous avez dit, Camille de Certaines, qu'il y a en fait deux modes selon lesquels la femme s'accomplit, c'est le mode complétif et le mode réalisatif.
Oui. Alors, pour un peu les visualiser, on peut imaginer, essayer de visualiser un triangle. Donc, les trois côtés de notre triangle, c'est vraiment le trio tête-cœur-corps qui est vraiment nécessaire à toute la personne. Et puis, on peut aussi voir le triangle, on voit les deux côtés qui montent en pointe comme les deux modes de la femme. Avec la pointe du triangle, le sommet du triangle, en fait, qui est l'épanouissement de la femme. Et donc, d'un côté, on a le mode réalisatif et de l'autre côté, le mode complétif. Et donc, on voit bien avec cette forme un peu imagée du triangle, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. En fait, il n'y a pas de concurrence, même si parfois la femme peut ressentir un peu de concurrence entre ces deux modes. En fait, les deux modes, vraiment, ils se complètent et ils permettent d'atteindre le sommet, l'épanouissement de la femme.
Oui, et on le visualise bien, effectivement, avec votre image du triangle, avec ces deux côtés qui se rejoignent à la pointe.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Alors, on va peut-être parler quand même de ce mode réalisatif. De quoi s'agit-il ?
Alors, le mode réalisatif, en fait, c'est que la femme évolue pour elle-même. La femme, elle est créée pour elle-même, elle est dotée de talents uniques. Elle est appelée à créer, elle est appelée à déployer ses talents, toutes ses qualités, à s'accomplir comme personne humaine, comme femme. Jean-Paul II, en 1988, a écrit une magnifique lettre apostolique qui s'appelle « Mulieris Dignitatem », dans laquelle il souligne l'importance de l'engagement politique, social, économique et culturel de la femme où en fait elle apporte dans la société toute sa richesse spécifique. Il parle vraiment de génie féminin à redécouvrir. Voilà, c'est vraiment essentiel. La femme, elle est voulue pour elle-même en tant que personne humaine et elle s'accomplit dans le don d'elle-même. Donc, pour devenir pleinement une personne humaine, pleinement femme, eh bien, il faut qu'elle se donne, qu'elle apporte sa touche féminine au monde. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le mode réalisatif de la femme. Elle va réaliser des choses dans le monde, dans la société, et ce faisant, elle va déployer son être.
Et c'est intéressant ce que vous dites à partir de Jean-Paul à propos de Jean-Paul II. On pourrait se dire que l'Église cantonne la femme à son intérieur. Et alors là, pas du tout, puisque vous dites que la femme, elle est invitée à s'engager dans le monde politique, social, économique et culturel.
Oui, vraiment, Jean-Paul II rend hommage à cet engagement féminin et il voit la richesse que peut apporter justement la complémentarité de l'homme et de la femme dans la société, dans l'entreprise, dans le monde de la culture. Voilà, vraiment, c'est... Les deux ont une place essentielle.
Et donc, le don de la femme, le don d'elle-même, se décline dans ces deux modes, c'est
voilà, dans le mode réalisatif et dans le mode complétif.
Il nous reste quelques minutes, on va peut-être commencer d'expliquer un peu le mode complétif avant notre petite pause musicale. Qu'est-ce que ça veut dire, le mode complétif ?
Alors, le mode complétif, on l'expliquera par trois choses, ça passe par trois aspects. Le premier, c'est que la femme est gardienne de l'homme. Le deuxième, c'est que la femme, elle est dans l'humanisation, dans l'éducation. Et le troisième, que la femme est mère. Voilà, c'est vraiment les trois aspects du mode complétif de la femme. La femme, elle vient compléter, elle vient être un soutien pour l'humanité.
Alors, j'aime bien ce terme, la femme est gardienne de l'homme. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez parce que ce n'est pas souvent qu'on l'entend quand
non,
même.
Non, non, on entend plutôt l'inverse. Pourtant, ça vient de la Bible et ça vient du mot « ézer ». On a déjà parlé dans les émissions précédentes de « ézer ». Voilà, la femme, elle est cette ézer, elle est créée à partir de la côte d'Adam, qui prend conscience de sa masculinité en face de la féminité. Et donc la femme, elle humanise l'homme, si on peut dire. Ézer, ça signifie ce bouclier, ce défenseur, ce protecteur, cette aide, en fait, pour qu'il réalise sa vocation propre d'homme. Jean-Paul II a une magnifique méditation sur le don, où il écrit « Dans la femme créée par Dieu, l'homme retrouve l'aide qui lui ressemble. » La femme est donnée à l'homme afin qu'il puisse se comprendre lui-même et réciproquement, l'homme est donné à la femme avec le même objectif. Ce réciproquement, il est important parce que dans le couple, voilà, chacun est vraiment au service de l'autre et c'est ainsi que le couple peut croître. Mais la femme, elle a spécifiquement cette mission d'humanisation, vraiment.
Ouais, c'est très beau, hein? Très beau, à méditer en tout cas. Hein. Oui. Alors, je vous propose que... On va continuer sur cette notion de femme gardienne de l'homme. Est-ce qu'elle est seulement gardienne de l'homme ou est-ce que ça va au-delà ?
Oui, vous avez raison. Elle est gardienne de l'homme dans la mesure en fait, où la femme est gardienne de l'amour. La femme, c'est celle qui porte l'amour et vraiment toute son énergie est orientée à ça pour faire en sorte que l'amour soit toujours jaillissant, pour que l'amour croisse. En fait, on peut dire que la force de l'homme garde la femme, on va dire d'un point de vue extérieur, voilà. Mais c'est la femme qui est la source de la force de l'homme, un peu la force intérieure de l'homme. Béatrice Dufour, qui animait de magnifiques conférences sur la femme à Paray-le-Monial, écrit « Un homme est fort parce qu'il a une colonne d'appui. La femme est forte parce qu'elle se livre pour être colonne d'appui. Là, elle trouve sa stabilité, son stabat. » Voilà, c'est vraiment cette source intérieure de la force de l'homme, si on peut dire. Et on peut prendre l'exemple du mariage, justement, où c'est cette complémentarité entre l'homme et la femme qui est féconde. On n'est pas dans une concurrence, on n'est pas dans une compétition. Voilà, c'est chacun qui, à sa manière, est un soutien pour l'autre. Et ce soutien pour l'autre, eh bien, va faire grandir l'amour.
Oui, c'est voilà. Ça, oui. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui peut ne pas fonctionner dans cet équilibre, dans cet apport de l'un envers l'autre ?
Oui, le risque, et c'est le risque qu'on voit avec les revendications féministes, en fait, c'est ce désir d'indépendance un peu exagérée, d'autonomie exagérée. Voilà, c'est le risque de la femme qui ne veut pas dépendre de personne et pas de son mari, en tout cas, d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique même, symboliquement. En fait, c'est la femme qui ne s'offre pas comme une colonne d'appui. Elle ne veut pas être une aide pour l'autre. Or, voilà, c'est vraiment la grâce de la femme d'être la gardienne de l'homme, d'être l'ézère. Et si la femme refuse son rôle, eh bien, en conséquence, ça a aussi un impact sur l'homme qui a plus de mal à trouver sa place d'homme, son identité d'homme.
Oui, donc comme quoi, il n'y a pas que la société qui dit que les rôles sont interchangeables, mais il y a aussi la femme qui a ce rôle de révéler à l'homme sa véritable vocation.
Oui.
Ouais. Alors, je vous propose qu'on marque une petite pause. Camille de Certaines, nous allons écouter le Cantique des Cantiques, interprété par Natacha Saint-Pierre et Glorious.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Avec Camille Desertaine, nous essayons ce matin de comprendre, de mieux comprendre la vocation de la femme. Camille, vous nous avez expliqué comment la femme se réalisait et vous avez commencé à nous expliquer comment la femme s'accomplit dans sa vocation. C'est le mode complétif. Et vous nous avez dit cette très belle expression de la femme gardienne de l'homme, la femme gardienne de l'amour. Et puis, c'est vrai que ça nous fait revenir en arrière aux premières émissions, à ce récit de la Genèse, où vous nous avez raconté ce récit de la création de l'homme et de la femme. Est-ce qu'on ne trouve pas dans ce texte une explication de cette fuite, de cette envie de ne pas être dépendant l'un de l'autre ?
Oui, au chapitre 3 de la Genèse, nous avons le récit de la chute, du péché originel, oui. Donc la chute de la femme et la chute de l'homme. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, le serpent, le diable, tente la femme parce qu'il sait que si la femme tombe, alors l'homme tombera aussi. Et c'est là voilà, où on
retrouve ce mot de gardienne.
Oui, ce mot de gardienne, d'aide assortie. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils s'aident mutuellement. Et l'une des raisons qui explique que la femme tombe, en fait, c'est parce qu'elle agit seule. Le serpent lui propose de prendre le fruit et seule, elle a décidé de prendre le fruit défendu pour avoir la connaissance, pour avoir l'autonomie, pour prendre sa vie en main. Ce qu'on peut voir derrière, en fait, c'est qu'elle a refusé de dépendre de Dieu, qui allait donner sa connaissance, mais en son temps. Et elle a refusé de dépendre de l'homme pour décider. En fait, elle a refusé son rôle de soutien de l'homme. Stasie Eldredge écrit « En désobéissant à Dieu, elle a violé sa propre essence. Ève était supposée être le soutien aux côtés d'Adam, destinée à le secourir. Elle devait lui apporter la vie, l'inviter à la vie. En fait, elle l'a invité à la mort. » Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'homme ? Eh bien, finalement, l'homme, lui, sa faute, c'est d'avoir été lâche, d'avoir déchu dans sa masculinité. Lui, il a pris le fruit et il l'a mangé et il n'a pas défendu la femme.
Il ne s'est pas opposé.
Il n'a pas défendu la femme contre le tentateur et contre elle-même. Et donc là, on voit que la femme, elle est gardienne de l'intériorité, cette colonne d'appui de l'homme, alors que lui est plus gardien extérieur, si on peut dire. Et voilà, si la femme refuse sa mission, sa vocation, alors l'homme n'arrivera plus à trouver la sienne.
Et c'est ce que vous dites, Camille Desertaine, ça fait écho à une émission qui a été diffusée au mois de décembre sur le lien entre la vie conjugale, le couple et le diaconat permanent. Et un diacre, Guy de Belair, a témoigné en disant « En fait, à chaque fois que je décide seule, que je prends des décisions sans en référer à ma femme, sans lui demander son avis, eh ben en fait, je me trompe. »
C'est beau.
C'est beau. C'est vraiment cette façon d'être gardien l'un de l'autre et de pouvoir s'appuyer pour avancer ensemble.
Un autre exemple, c'est le bienheureux Charles d'Autriche, l'empereur d'Autriche, qui consultait beaucoup sa femme Zita, l'impératrice, pour échanger avec elle sur tous les sujets, parce que il savait qu'elle... qu'il avait besoin aussi de son avis, de ses lumières de femme, en fait.
Alors, la femme est gardienne de l'homme, elle est gardienne de l'amour. Comment est-elle dans la complétude ?
Alors voilà, la deuxième voie pour être dans la complétude, c'est d'être dans l'humanisation, dans l'éducation. Ève, c'est la mère des vivants. Dans Mulieris Dignitatem, Jean-Paul II écrit « La femme est mère et première éducatrice de l'humanité ». Et il écrit par ailleurs « La femme ne peut se trouver elle-même si ce n'est en donnant son amour aux autres. » Voilà, là, la femme, elle va se réaliser dans ce don de soi en aimant son mari, ses enfants, ses amis, tous ses engagements au service des autres. La femme, c'est profondément un être de relation. Et comment elle aide ? Elle aide par son cœur, elle aide par son écoute. Un exemple, c'est qu'au travail, les femmes, souvent, elles se soucient de leurs collègues, elles se soucient de leur personne, elles sont dans la collaboration. La femme, elle est profondément dans l'être. Le cardinal Ratzinger parle de sa capacité de l'autre. Il y a vraiment une intuition qui est liée, en fait, profondément à sa capacité physique de donner la vie. Que cette capacité physique soit vécue ou en puissance, c'est-à-dire qu'elle soit exercée ou pas, cette capacité, elle est quand même une réalité qui structure la personnalité féminine en profondeur.
Et quelles sont les capacités naturelles de la femme qui la portent à ce mode complétif ?
Oui, alors c'est Edith Stein qui développe cela. Elle parle d'une capacité naturelle qu'elle nomme intropathie. C'est vraiment cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à entrer dans la perspective de l'autre pour percevoir ce qu'il ressent. C'est vraiment plus fort que l'empathie. Et pour vivre ce don, en fait, il faut assumer sa propre vulnérabilité pour être capable de se décentrer de soi, pour accueillir sans juger, sans fusionner avec ses propres sentiments. Voilà, la femme, elle capte très naturellement ce que vivent les gens. Quand une collègue arrive au bureau le matin, et bien la femme, elle va savoir intuitivement comment s'est passé son week-end, si ça s'est bien passé ou mal passé. Voilà. Et en fait, toutes ces émotions, cette tristesse, joie, tout ça, ça descend dans le cœur de la femme. Ça touche profondément la femme. Et en fait, après, la femme transforme ses sentiments en compassion, en consolation, en charité. Le pape François a cette très belle phrase, il dit « Un monde où les femmes sont marginalisées est un monde stérile, car les femmes transmettent la capacité de comprendre le monde avec un cœur plus créatif, plus patient, plus tendre. » Voilà, il y a vraiment... Je trouve qu'il touche bien ce qui fait le cœur de la femme.
Et ce que vous disiez à propos de l'écoute et dans l'intropathie dont parle Edith Stein, vous disiez que la femme a la capacité d'écoute, mais il ne faut pas que cette capacité se retourne vers elle.
Oui.
Voilà, c'est une écoute pour la personne, oui. Autre, oui. Mais pas pour rebondir et dire « Ah bah oui, ça m'est arrivé il m'est arrivé la même chose. »
Oui, oui, ouais. Tout à fait. La femme peut elle-même être dans un certain état d'esprit, mais si son amie, elle rencontre une amie qui elle-même est triste, elle ne va pas fusionner avec sa propre tristesse, en fait. Ouais. Il faut qu'elle se dégage de ce qu'elle elle-même peut vivre pour vraiment entrer dans la perspective de son amie, ce que son amie vit, ce que son amie ressent. Et elle a cette capacité, justement,
oui,
pour
c'est
être...
c'est la compassion.
Voilà. Ouais.
Ouais. Quels sont les traits de la psychologie féminine?
Oui, alors on est toujours chez Edith Stein. Ouais. Elle écrit que l'homme est plus axé sur l'objectif. Voilà, il se soumet aux lois de l'objet, qu'il étudie ou qu'il travaille. Et la conséquence de ça, c'est qu'il peut être très unilatéral. Voilà, il a une passion, un objectif. Voilà. La femme, elle, donc l'homme, il est axé sur l'objectif. La femme, elle est axée sur la sphère personnelle. Elle est axée sur la personne. Et d'ailleurs, la femme, elle associe spontanément toute sa personne dans ce qu'elle fait. Quand elle travaille, elle y met aussi tout son cœur, toutes ses émotions. Voilà. Et en même temps, elle s'intéresse à la personne. Elle s'intéresse à la vie personnelle de ses amis. Voilà. Et la femme voudrait devenir un être complet. Elle voudrait être épanouie en plénitude et elle voudrait aussi que les autres dont elle a la charge deviennent des êtres complets. Mmh. On voit une mère, elle a le désir, elle va aider à ce que ses enfants soient des personnes épanouies. Ou voilà, ou la même chose avec ses amis. Voilà, il y a vraiment une propension de la femme à se porter sur la personne. Et pour Edith Stein, c'est vraiment la marque que la destination, elle parle de destination particulière de la femme, d'être une compagne, voilà, vraiment d'être un appui, d'être un soutien.
Et ça, effectivement, c'est un souci constant de la femme, et vous le dites, dans l'éducation, mais aussi dans le monde.
Oui, dans le monde, dans l'amitié, dans les relations professionnelles. On est aussi dans l'être, en fait. On ne fait pas abstraction, on ne fait jamais abstraction de la personne.
Après la femme comme gardienne de l'amour et éducatrice de l'humanité, il y a une troisième voie de la complétude pour la femme.
La troisième voie de la complétude pour la femme, c'est d'être mère. La femme, elle est vraiment réceptacle, elle est berceau de la vie. C'est un charisme qui est propre à toute femme. Avec la maternité, c'est magnifique. Elle participe de manière intime à l'acte créateur de Dieu en donnant sa propre chair et son propre sang. Et il y a quelque chose de terrible dans le refus d'enfanter, parce que ça peut finalement entraîner une stérilité beaucoup plus large, même spirituelle. Voilà, Dieu ne pourra plus s'acquérir de fils. Et on voit aujourd'hui, il y a un combat vraiment diabolique, et le diable est jaloux de la femme parce que sa mission est de donner la vie, et le diable veut l'empêcher vraiment d'entrer dans cette vocation. Or, si la femme n'entre pas dans cette vie, eh bien, le monde court à sa perte.
Ouais, c'est grave, oui. Hein, ça va loin. Et pourtant, toute femme n'est pas appelée à être mère selon la chair.
Oui, c'est très important. Toute femme est faite pour être mère. C'est essentiel. Mais la maternité, elle dépasse très largement celle de la chair. Voilà, toutes les femmes, sans exception, sont appelées à donner naissance à des idées, à des projets, à des expressions créatrices, artistiques, à des mouvements de la vie sociale. Voilà, c'est très, très large.
C'est une fécondité très large.
C'est une fécondité très large qu'on appelle la maternité spirituelle. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas moins femme parce qu'on n'a pas donné la vie physiquement à des enfants. Et on prend l'exemple des célibataires ou des religieuses, elles ne sont pas moins femmes. Elles peuvent avoir une fécondité, une maternité extrêmement large, ou même des couples qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent avoir une fécondité immense. Voilà, notre cœur et notre vie sont beaucoup plus vastes que la maternité physique. Toute femme est à l'image de Dieu par sa capacité à donner la vie et à materner. J'aime beaucoup ce mot materner, et c'est un mot qu'on voudrait un peu rayer du vocabulaire, parce que le monde devient dur, je trouve. On nous dit ne maternez pas vos élèves, ne maternez pas vos malades, ne maternez pas vos personnes âgées. Mais voilà, comme le pape le rappelait, le monde a besoin de tendresse. Le monde devient trop dur, les femmes peuvent devenir dures. Et voilà, on a besoin de cet écoute, de cet intérêt pour les autres. Il y a vraiment une grande beauté des vertus féminines qui sont plus passives, qui sont plus affectives, et le monde en a profondément besoin. La philosophe Madeleine Delbrel écrivait que la femme est une force cardinale. Voilà, elle est vraiment le gond, la charnière, le lien.
Et c'est vrai, dans l'exemple du monde, vous dites que on voudrait bannir ce mot materner de son vocabulaire. Ne maternez pas, comme vous disiez, Camille Desertaines, ne maternez pas vos élèves, les personnes âgées. Et c'est vrai qu'on a cette tentation de vouloir que chacun soit autonome aussi. Hein.
Oui, et c'est en fait, l'autonomie est une bonne chose.
Oui.
Voilà. Mais l'autonomie n'est pas l'indépendance, et l'autonomie ne coupe pas le lien, en fait.
Oui,
ne coupe pas l'affection, ne coupe pas la charité. Voilà. Et on veut être dans l'efficacité au lieu d'être dans le lien, en fait.
Oui, c'est ça. Et on perd évidemment tout lien charnel aussi.
Oui.
Alors, on pense souvent que l'épanouissement de la femme passe par un équilibre entre son couple, sa famille et son travail. Qu'est-ce que vous entendez, vous, Camille Desertaines, par ce mot épanouissement ?
Alors, on va reprendre notre triangle là, tout à l'heure avec les deux côtés, donc les deux modes réalisatifs un côté, l'autre côté le mode complétif et le sommet qui est donc l'épanouissement de la femme, donc pleinement les deux. Et donc souvent, on imagine que ce triangle est isocèle. Donc ces deux côtés sont égaux avec voilà, la pointe du triangle en haut qui est le sommet de la femme. Mais c'est vraiment important de comprendre que selon les périodes de la vie, eh bien, un mode peut être plus marqué qu'un autre. Et donc, en fait, notre triangle, en réalité, il n'est pas, ou il n'est même quasiment jamais isocèle. La pointe est toujours en haut, mais un côté ou l'autre peuvent être plus longs. Et donc, selon les périodes de la vie, eh bien, l'un ou l'autre des deux modes peut être plus marqué.
Vous auriez des exemples ?
Oui, quand on est, par exemple, étudiante, eh bien, on est plus dans le mode réalisatif. Donc, le mode, ce côté-là va être plus marqué. Quand on est maman avec des jeunes enfants en bas âge, ben, nécessairement, on est plus dans le mode complétif. Et là, on voit qu'il y a des enjeux, un enjeu par exemple de n'être que dans le mode réalisatif. Attention, voilà, de ne pas tourner ma vie uniquement autour de moi et de devenir égocentrique. Voilà,
et de mes études.
Voilà.
Ouais.
Et donc, c'est un peu l'enjeu pour les étudiants de trouver des activités où elles vont pouvoir aussi se donner. Ce que font par exemple toutes celles qui sont cheftaines. Vous voyez, là elles sont à fond dans leur mode complétif. C'est magnifique, elles réalisent ce mode complétif. Et ça explique aussi pourquoi tous les métiers de la santé, comme les métiers d'infirmière, sont si féminins. Parce qu'on est à la fois dans un mode réalisatif, donc dans un travail, mais qui est en même temps profondément au service de la personne, donc profondément complétif. Et donc, c'est vraiment un travail qui va épanouir le cœur de la femme.
Et à l'inverse, comment une femme qui, comme vous le disiez Camille, est avec des jeunes enfants, donc plus dans le mode complétif, comment elle peut aussi être dans ce mode réalisatif ?
Oui, c'est vraiment important, en sens inverse, si on n'a aucun mode réalisatif, qu'on est uniquement en mode complétif et spontanément on pense aux jeunes mamans un peu épuisées par leurs petits, vous voyez, il y a ce risque du burn-out dont Pascal Hyde dit que c'est la maladie du don, en fait.
Oui.
Et c'est vraiment important, dans la mesure du possible, mais que la jeune maman essaie de trouver des temps pour elle, pour se ressourcer. Parce que, pour se donner, eh bien, il faut qu'il y ait de la ressource, sinon je vais m'épuiser.
Oui, on n'a plus rien à donner, en
voilà.
fait.
Hein. Ouais, à la fin, on n'a plus rien à donner.
Quel conseil donneriez-vous aux femmes pour savoir où elles se situent, justement, sur ces deux modes complétifs et réalisatifs, pardon ?
On peut en effet essayer de se situer sur chacun de ces deux modes et réfléchir, est-ce que c'est équilibré actuellement dans notre vie ? Est-ce qu'un mode est au détriment de l'autre ? On peut se poser cette question en ce moment de ma vie, là. Où est-ce que je me situe sur mon sommet ? Où est-ce que je me situe sur chacun des côtés ? À quoi ressemble mon triangle, en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose à réajuster ? Parce qu'il peut y avoir des choses à réajuster.
Et qu'est-ce qui peut alerter, justement, si on est déséquilibré entre
alors
les deux modes ?
Ça peut être, par exemple, une fatigue physique, vous voyez, ou une sécheresse. Pour une maman, par exemple, quand on sent qu'on est un peu amer avec ses enfants ou qu'on devient trop impatiente, on se dit, est-ce que là, il n'y a pas un souffle à reprendre pour pouvoir... à nouveau retrouver la joie de me donner, en fait. Peut-être que quand je perds cette joie, là, on se dit qu'il y a quelque chose à réajuster.
Oui.
Et on peut prendre des exemples de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont pleinement atteint leur sommet, et c'est toutes les saintes. On peut prendre l'exemple de Mère Teresa, qui a réalisé des choses extraordinaires. et tout en étant dans un don total d'elle-même, dans un accueil total des pauvres. Je pense aussi à
une grande simplicité.
Une grande simplicité, oui. Je pense aussi à Sainte Zélie Martin, qui était à la fois maman de famille très nombreuse et chef d'entreprise. Voilà, d'autres. Enfin, on peut trouver plein de saintes, en fait. Et du coup, c'est intéressant de voir comment elles ont réalisé leurs deux modes. En fait, elles n'ont pas occulté l'une ou l'autre facette de leur personne. Parce qu'en fait, ce sommet, c'est vraiment l'unité intérieure de la femme. Donc, peu importe si notre triangle est isocèle ou pas, le but, c'est vraiment, est-ce que dans mes circonstances, j'essaie d'être à la fois dans mon mode réalisatif et dans mon mode complétif? Est-ce que finalement, dans mes circonstances, je me donne en tant que femme?
Ben voilà une bonne question qu'on va laisser à nos auditeurs et surtout à nos auditrices pour ce mois qui vient. Merci beaucoup, Camille de Certaines, de nous avoir éclairé sur la vocation de la femme.